Bonjour, je suis Cécilia Cohen, je suis orthoptiste à l'Institut de la Vision chez StreetLab et aujourd'hui je vais vous parler de l'anatomie de l'œil grâce à une présentation réalisée par Marco Lombardi. L'idée de cette présentation, c'est de vous parler de façon claire et précise des différentes structures anatomiques de l'œil. On passera à chaque fois en revue une petite description anatomique et ensuite je vous parlerai de la fonction de cette partie de l'œil. On va commencer ensemble par le globe oculaire. Donc l'œil humain, c'est un globe de 2,2 à 2,5 cm de diamètre qui pèse entre 7 et 8 grammes. Il est mobile grâce à 6 muscles extraoculaires sur chaque œil. L'œil, c'est un organe qui est ultra performant, très complexe et assez fragile. C'est une sphère qui est remplie de liquide. L'œil est constitué de 3 couches que l'on va détailler ensemble. La sclère, la choroïde et la rétine. La sclère, c'est la partie la plus externe. C'est une couche blanche et opaque qui constitue les 5 sixièmes du globe oculaire et qui est constitué de fibres denses et de tissus conjonctifs. Sa fonction, c'est vraiment de protéger les structures internes de l'œil et elle permet également la fixation des muscles oculomoteurs. La choroïde. Cette couche est très vascularisée et pigmentée. C'est la partie postérieure de l'œil qui est attachée à la tunique fibreuse, la sclère, par des lamelles et elle repose sur une tunique nerveuse, la rétine. Elle est constituée de 2 couches, la choriocapillaire et la membrane de Bruch. Elle sert essentiellement à nourrir les cellules rétiniennes. La rétine, c'est la couche la plus interne qui est composée de 2 couches de base, la rétine nerveuse et l'épithélium pigmentaire. La fonction de la rétine, c'est de collecter tous les stimuli lumineux, de les traiter et de les transmettre au cerveau. Nous allons maintenant parler ensemble de la chambre antérieure. La chambre antérieure est constituée de plusieurs structures. La cornée, le limbe sclérocornéen, l'iris, le corps ciliaire, les muscles ciliaires et les procès ciliaires. Alors la cornée, c'est un élément transparent composé de 5 couches, donc l'épithélium antérieur, la membrane de Bowman, le stroma, la membrane de Desmet, l'épithélium postérieur. C'est un élément avasculaire, mais très 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 innervé. C'est pourquoi elle est si sensible. Sa fonction principale à la cornée, c'est de focaliser les faisceaux lumineux sur le cristallin. En raison de son emplacement, et comme elle est la première structure qui reçoit la lumière et les composants de l'environnement, la cornée est également capable de détecter des corps étrangers grâce à sa riche innervation et grâce au clignement, la surface cornéenne reste propre. Le limbe sclérocornéen. C'est le point de transition entre la cornée, donc la partie transparente de l'œil, et la sclère, la partie blanche. Et il y a un changement brusque entre la cornée avasculaire et la sclère, qui, elle, est hautement vascularisée. Ces cellules ont une grande capacité de régénération. Ce sont des cellules indifférenciées, des cellules souches. Leur fonction, c'est de drainer l'humeur aqueuse, qui va être située dans l'angle irido-cornéen. Il y a plusieurs petits canaux qui bordent l'endothélium, connus sous le nom de maillage trabéculaire, ou des espaces de Fontana, sont situés. Ils convergent et forment le canal de Schlemm, qui entoure la cornée. Parlons de l'iris maintenant. Elle fait partie de la couche vasculaire de l'œil qui est également appelée UV. Cette couche est constituée de l'iris, du corps ciliaire et de la choroïde. C'est la partie la plus antérieure de la tunique vasculaire, ou l'UV, qui prend naissance à la limite antérieure du corps ciliaire et qui est attachée à la sclérotique 2 mm en arrière du limbe sclérocornéen. Le trou central de ce disque de l'iris, c'est la pupille. L'iris régule l'entrée de la lumière dans l'œil et à l'intérieur se trouve le muscle dilatateur de la pupille. Sa fonction est d'augmenter la taille de la pupille lorsque la lumière est faible. On dit qu'on est en mydriase. Et autour de l'orifice pupillaire se trouve un muscle constricteur de la pupille. Sa fonction est de réduire la taille de la pupille lorsque la lumière est intense. On parle de myosis. C'est la mélanine qui va déterminer la couleur de l'œil. Tout dépend du degré de production de ce pigment. Les yeux marrons sont donc plus pigmentés que les yeux bleus ou les yeux verts. On va parler maintenant du corps ciliaire. Le corps ciliaire, c'est le prolongement antérieur de la partie que l'on appelle la choroïde. Il a une forme triangulaire dont le sommet est la limite antérieure de la rétine. Et sa base va se situer en arrière de l'iris. C'est le support des muscles ciliaires et des process ciliaires. Il comporte deux parties, la pars plana, qui sert d'insertion au vitré et à la zonule cristallinienne, et la pars plicata, qui se situe dans la partie plus antérieure. Elles forment un épaississement vasculaire antérieur de la choroïde et un autre épaississement qui va constituer le process ciliaire. Leur fonction, c'est la production de l'humeur aqueuse. Parlons maintenant des muscles ciliaires. Les muscles ciliaires sont situés au niveau du limbe sclérocornéen et les fibres sont réparties en trois directions, méridienne, longitudinale, radiale ou oblique et circulaire ou sphinctérienne. Les muscles ciliaires participent à l'accommodation, c'est-à-dire à la mise au point pour voir net, de près, l'autofocus. On va parler un petit peu du processus de l'accommodation dans l'œil. C'est un mécanisme très naturel, très utile, qui permet de voir de près, de voir net de près. Mais aussi à différentes distances. Ça permet vraiment la mise au point et la vision nette. Son mécanisme met en jeu la contraction du muscle ciliaire qui induit un bombement passif du cristallin grâce au relâchement de son ligament suspenseur. C'est ce bombement, on va dire cette augmentation de la courbure, qui va permettre à l'œil d'atteindre la vergence nécessaire à la vision rapprochée. Et la presbytie, on en a déjà parlé dans l'autre diapo, va arriver quand l'accommodation ne suffira plus et ne permettra plus à l'œil d'effectuer la mise au point pour voir net de près. On aura besoin d'une compensation avec des lunettes. On va parler maintenant des processus ciliaires. Ces processus ciliaires sont des extensions du corps ciliaire avec des granules de mélanine à l'intérieur et elles sont recouvertes par l'épithélium ciliaire. La fonction des processus ciliaires est de produire l'humeur aqueuse. Nous allons parler du cristallin. Le cristallin est suspendu sur tout son pourtour par des ligaments appelés zonules de Zinn et fixés aux muscles ciliaires. Le cristallin est normalement transparent. Quand il ne l'est plus, on parle de cataracte. Il assure un tiers de la puissance totale de l'œil. Il permet l'accommodation pour voir net, de près, et il absorbe une partie des UV. Nous allons parler maintenant de l'humeur aqueuse. C'est le liquide transparent qui remplit la partie avant de l'œil, entre la cornée et le cristallin, et qui transporte des éléments nourriciers pour ses organes. L'humeur aqueuse se renouvelle constamment par un mécanisme de production et d'élimination, et elle régule ainsi la pression intraoculaire. Les corps ciliaires sont responsables de la production de l'humeur aqueuse, et l'humeur aqueuse a un système de régulation interne dans l'œil. La fonction de l'humeur aqueuse, c'est de maintenir la forme de la structure de la chambre antérieure. La sécrétion et le drainage de l'humeur aqueuse aident à déterminer la pression intraoculaire. Elle aide aussi à nourrir toutes les parties de l'œil qui sont dépourvues de vaisseaux sanguins, comme l'arrière de la cornée ou l'avant du cristallin. Elle aide aussi à la réfraction de la lumière qui entre dans l'œil en la canalisant vers la pupille, puis vers le cristallin. Nous allons aborder l'anatomie et les structures qui composent la chambre postérieure. Donc la chambre postérieure est composée de la choroïde, de la rétine, du nerf optique et de l'humeur vitrée. La rétine, la macula et la fovéa. C'est une membrane très très fine et transparente qui tapisse le fond de l'œil. Deux parties se distinguent, une partie centrale avec la macula, la fovéa et au centre, une toute petite zone appelée la fovéola, qui permettent la précision de la vision. En somme, la vision des détails. Il y a également une partie plus périphérique qui va permettre la vision latérale, la détection du mouvement et la vision en situation de pénombre. La fonction de la rétine est de recevoir les informations lumineuses et de les transformer afin qu'elle soit interprétable pour le cerveau. La rétine est donc la couche sensible de l'œil où se forme l'image. Sa partie sensible à la lumière se compose de cellules appelées les photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets. Il y a environ 5 millions de cônes qui sont situés principalement au centre de la rétine. Ils permettent une acuité visuelle fine, la définition des formes et une vision photopique, donc la journée. Ils permettent aussi la vision des couleurs grâce aux cônes vert, rouge et bleu. Environ 120 millions de bâtonnets sont situés principalement en périphérie de la rétine. Ils vont permettre la vision du mouvement et la vision scotopique. Le nerf optique maintenant. C'est un nerf sensoriel qui permet l'assimilation et l'intégration de la perception visuelle. Chaque nerf optique provient des cellules ganglionnaires de la rétine. C'est un cordon cylindrique de 5 cm de long. Cette zone circulaire, départ du nerf optique et passage des vaisseaux, est dit aveugle. C'est la papille optique ou la tache aveugle. Deux zones peuvent être distinguées dans la papille, la cupule papillaire et l'anneau neuro-rétinien. Sa fonction principale, son rôle essentiel, c'est de transmettre les informations perçues par la rétine jusqu'au cerveau, jusqu'au cortex cérébral. Parlons maintenant du corps vitré. C'est un élément visqueux qui se liquéfie avec l'âge et c'est la majeure partie du volume du globe oculaire. La fonction, c'est de soutenir la rigidité et l'élasticité du globe oculaire, de maintenir aussi la rétine plaquée contre la paroi du globe oculaire. Nous allons parler maintenant des annexes du globe oculaire. On commencera par la paupière, les paupières. Donc les paupières, il y a une supérieure, une inférieure. C'est un pli de la peau qui recouvre la face avant de l'œil. La face externe est recouverte d'une peau fine et élastique et la face interne est recouverte par la conjonctive palpébrale. Les structures internes de la paupière sont une série de muscles et de structures de tissu conjonctif très denses que l'on appelle le tarse palpébral. Il abrite les glandes de Meibomus. Et dans la peau des paupières se trouvent des glandes sudoripares, des poils très fins et des glandes sébacées. Les bords des paupières comportent des cils, qui sont des poils rigides et recourbés, dont la fonction est de protéger l'œil des rayons du soleil et des particules de l'environnement. La fonction principale des paupières, c'est de protéger le globe oculaire. Nous allons parler de la conjonctive. La conjonctive, c'est une fine muqueuse transparente qui tapisse la surface postérieure de la paupière et la partie antérieure du globe oculaire sur la sclérotique, tout autour de la cornée. Son but également est de protéger l'œil. Et la conjonctive est chargée de maintenir la surface avant de l'œil humide et lubrifiée, ce qui permet l'ouverture et la fermeture des paupières sans frottement ni irritation des yeux. La conjonctive protège l'œil de tout facteur externe, tel que les poussières, les micro-organismes, qui peuvent provoquer des infections. Et les vaisseaux sanguins de la conjonctive aident à nourrir l'œil et les paupières. Nous allons parler ensuite des glandes lacrymales. La glande lacrymale est située dans la fosse lacrymale, située sur la surface supérieure et externe de l'orbite. C'est une glande séreuse tubulo-alvéolaire qui est composée d'unités alvéolaires qui se jettent dans les 12 canaux lacrymaux qui percent la conjonctive en formant des petits points lacrymaux. Les larmes vont dans les canaux lacrymaux supérieurs et inférieurs qui sont situés dans le coin médial interne de l'œil qui forme le canal lacrymal. Celui-ci, à son tour, se jette dans le sinus lacrymal qui rejoint le canal lacrymo-nasal. Les paupières supérieures transportent les larmes vers la sclérotique et la cornée antérieure, les gardent humides et les protègent de la déshydratation. Nous allons parler maintenant des muscles oculomoteurs, les muscles oculaires. Les mouvements oculaires s'effectuent grâce à 6 muscles oculaires. Il y a le droit latéral, le droit médial, le droit inférieur, le droit supérieur, l'oblique inférieur et l'oblique supérieur. À l'intérieur de la structure osseuse qui soutient l'œil, tous ces muscles, sauf l'oblique inférieur, forment un cône avec une pointe qui est directement derrière le globe oculaire. Ce point s'appelle l'anneau de Zinn et c'est le point par lequel le nerf optique pénètre dans l'œil. Lorsqu'ils reçoivent des signaux du cerveau via le nerf optique, les muscles de l'œil, également appelés muscles extraoculaires, assurent les mouvements de l'œil. Nous allons parler des voies optiques. La voie optique commence par la stimulation des photorécepteurs, les bâtonnets et les cônes dont on a déjà parlé. Puis les cellules bipolaires de la rétine se connectent avec les cellules ganglionnaires, les cellules nerveuses. L'union des axones, donc les fins filaments nerveux des cellules ganglionnaires, va former le nerf optique. Le nerf optique sort de l'orbite en arrière pour rejoindre le nerf optique du côté opposé et former ce qu'on appelle le chiasma optique, le croisement des fibres de chaque côté des deux yeux. À ce stade, il y a un croisement de fibres nerveuses. Les fibres nerveuses quittent enfin le chiasma optique pour atteindre la station suivante, qui est le corps géniculé latéral. Le corps genouillé latéral va émettre le rayonnement optique qui va transformer l'information jusqu'au cortex visuel du cerveau, la région occipitale. La fonction du nerf optique, des voies optiques, c'est de transporter les informations de la rétine qui a été stimulée par la lumière vers le cerveau afin que les images soient correctement interprétées. Merci à vous et à très bientôt pour des questions et pour discuter un petit peu de tout ce contenu bien dense. Merci.